laquelle s'ajoutent des barbelés dans l'objectif de repousser les migrants. Ce dispositif est le fait du gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui reproche à l'administration Biden son inaction face à l'immigration illégale la semaine dernière. Pourtant, la Cour suprême a tranché en faveur de Biden en autorisant les agents fédéraux à retirer ces barbelés. Comment la frontière texane est-elle devenue le théâtre d'une bataille politique ? Bonjour Cléa Fortuné.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Il y a 3 ans, Greg Abbott lançait l'opération Lone Star. En quoi consiste cette opération ?
Oui, alors en effet, vous l'avez rappelé en introduction, le Greg Abbott, qui est républicain, très proche de Donald Trump, conservateur et gouverneur du Texas depuis 2015, a lancé cette opération dans le but de défier l'État fédéral, l'administration Biden, pour freiner l'immigration. Et l'opération Lone Star consiste en le déploiement de moyens financiers et humains pour contrôler la frontière, donc c'est-à-dire déployer la garde nationale du Texas le long de la frontière qui sépare le Texas du Mexique, mettre en place ces bouées flottantes en plein milieu du fleuve Rio Grande, Rio Bravo, surmontées de fils barbelés. Donc tout ça dans une optique de défier l'État fédéral.
Mais alors, pourquoi cela se déroule au Texas et pas dans d'autres États qui ont une frontière également avec le Mexique, la Californie, le Nouveau-Mexique, Cléa Fortuné? Pourquoi le Texas ?
Alors tout ça, ça s'inscrit dans un contexte de tension entre cet État dont le gouverneur est fortement républicain et encore une fois très proche de Donald Trump, et puis ce contexte des élections présidentielles aussi qui arrivent en novembre 2024. Et le gouverneur du Texas veut prendre en charge la question de l'immigration, alors que c'est un sujet qui est normalement traité par l'État fédéral.
Normalement, donc, ça ne devrait pas être à lui ou au Texas de s'en préoccuper ?
Non, exactement. Alors, la Constitution des États-Unis reste assez floue sur la question qui est exactement en charge des questions migratoires, mais historiquement, ça a toujours été l'État fédéral qui s'occupait des questions migratoires, des politiques migratoires à mettre en place, et non un État fédéré. Et là, clairement, le gouverneur républicain Greg Abbott essaye de défier l'État fédéral sur ces questions et d'être souverain sur ces questions migratoires.
Et alors, de l'autre côté, le discours de Joe Biden ou du gouvernement Biden, quel est-il au sujet de l'immigration ?
Alors, ça a été toute une histoire. Quand Biden a fait campagne pour devenir président, il a bien mis en avant qu'il fallait revoir les politiques anti-migratoires et sécuritaires qui avaient été mises en place par l'administration précédente, donc de Trump. Il a essayé aussi de mettre en place une réforme qui pourrait régulariser des sans-papiers aux États-Unis. La réforme n'est jamais passée au Congrès. Et là, dans ce contexte d'élection présidentielle qui arrive, forcément, Biden essaye de récupérer des voix électorales et a proposé un projet de loi au Congrès pour faire fermer la frontière complètement en cas d'afflux de migrants jugés trop importants. Donc c'est en cours au Congrès. Les républicains vont très probablement faire en sorte de ne pas signer trop vite pour justement récupérer eux aussi des voix de leur côté et annoncer que l'administration Biden n'a rien fait au sujet de la frontière.
Il y a la question de protéger la frontière, de la protéger de manière physique, parce qu'on voit bien que donc la question c'est d'installer des bouées, des barbelés, tout dispositif donc qui empêche ou qui sont censés empêcher donc le franchissement de cette frontière. Pourquoi est-ce aujourd'hui quelque chose d'aussi aigu dans le débat politique américain ? Puisque je dis ça parce que je sais que vous avez consacré votre thèse à ce thème, Cléa Fortuné.
Alors, tout ce qui est question migratoire et sécuritaire, c'est toujours au cœur des débats aux États-Unis, surtout encore une fois dans un contexte d'élection présidentielle. Hein, ça revient sur le devant de la scène et c'est très instrumentalisé aussi par certains politiciens. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On entend souvent que c'est l'administration Trump qui a construit les barrières qui séparent les États-Unis du Mexique. Non, pas du tout. Hein. Trump, lui, a fait remplacer quelques barrières. Il a ajouté une dizaine de kilomètres de nouvelles barrières, mais ce système, ce dispositif physique sécuritaire qui sépare les États-Unis du Mexique, ça date des années 90 sous l'administration Clinton. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Le but c'était de freiner les migrations. Ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. La stratégie qui a été mise en place dans les années 90, c'était une stratégie de prévention par la dissuasion. Donc établir des barrières entre les points de passage frontaliers principaux comme San Diego et Tijuana, avec l'idée que les migrants n'iraient pas traverser par d'autres points d'entrée. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les migrants, maintenant, utilisent des zones de traversée beaucoup plus dangereuses, puisqu'il s'agit de montagnes et de déserts, principalement.
Il y a quand même quelque chose d'étonnant. L'économie américaine va bien, elle a besoin d'immigrer. Il y a un certain nombre de secteurs, la restauration, mais pas uniquement, sont de très gros employeurs de ces immigrés, la plupart clandestin, pourquoi une telle focalisation sur cette question, Cléa Fortuné ?
Eh bien, c'est quelque chose qui attire les électeurs, qui va faire que les politiciens vont récupérer des votes de s'attaquer à ce sujet, même si en effet les États-Unis, dans leur économie, ont besoin de ces migrants sans papier hein, pour différents secteurs de l'économie. Et en fait, notamment les républicains vont utiliser toute une rhétorique autour de l'invasion, de l'ouverture des frontières ouvertes, poreuses, qui vont rentrer dans l'imaginaire des électeurs pour leur faire peur.
Mais pourquoi une telle forme de xénophobie ? Alors, je sais bien que la xénophobie n'a pas forcément de lien avec une situation économique particulière, mais on peut quand même s'en étonner dans un pays qui semble relativement prospère ?
Oui, alors c'est vrai que ça revient sur des sondages en fait qui ont été menés très récemment sur toute l'utilisation de cette rhétorique d'invasion. Les sondages ont montré que plus de la moitié des Américains vraiment avaient cette idée qu'il y avait une vraie invasion à la frontière des États-Unis entre les États-Unis et le Mexique, ce qui leur fait peur pour leur travail. Ils ont peur de perdre leur travail. Il y a cette idée que les migrants sans papier volent le travail des Américains. Et du coup, c'est quelque chose que les politiciens reprennent à leur compte pour vraiment obtenir des voix.
Et il y a aussi eu la rhétorique de Donald Trump consistant à assimiler ces migrants latino-américains à des voleurs, des violeurs. Il a utilisé toute une série de termes extrêmement injurieux pour les qualifier.
Oui, ça fait partie de la criminalisation des migrants. Les migrants sont criminalisés, on dirait que c'est des criminels de traverser la frontière, de fuir les conditions de pauvreté, de violence dans leur pays. Faut se rappeler quand même que le droit de migrer, c'est un droit international. Et aujourd'hui, les politiques migratoires aux États-Unis sont de plus en plus restrictives et il est très difficile de pouvoir demander refuge aux États-Unis.
Et alors, de fait, est-ce qu'il y en a plus ou moins ces migrants donc qui passent la frontière au Texas ou qui tentent de la passer ?
Alors les chiffres varient beaucoup hein, d'un mois à l'autre, même d'une semaine à l'autre, et en fonction de qui compte les populations qui traversent. Mais de toute façon, avec ce qui se passe dans le monde, on aura de plus en plus de migrations, notamment avec aussi les changements climatiques. On a de plus en plus de réfugiés climatiques. Il y a énormément de sécheresses, d'ouragans en Amérique latine qui font que les populations perdent tout ce qu'elles ont et se voient obligées de migrer vers le nord pour avoir une vie meilleure et subvenir à leurs besoins.
D'où viennent-ils pour la plupart ?
Alors la plupart viennent d'Amérique latine, donc Amérique centrale, de plus en plus d'Amérique du Sud.
Avec des pays en particulier ?
Oui, alors le pays du Triangle du Nord, donc Honduras, Le Salvador aussi beaucoup, Guatemala, qui sont très impactés notamment par les phénomènes climatiques. Dans ces pays, on produit du café et avec les sécheresses qui s'accentuent depuis quelques années, les populations locales perdent leurs plantations et se voient obligées de migrer.
Et alors, ceux qui réussissent à franchir la frontière, où vont-ils généralement aux États-Unis ?
Alors, ils essayent souvent de rejoindre des États où ils auraient de la famille, Très peu restent à la frontière, hein, parce que la frontière est très sécurisée. Beaucoup d'agents fédéraux qui contrôlent et surveillent la frontière avec des contrôles parfois d'identité aussi. Donc, ils essayent plutôt d'aller vers les États du nord des États-Unis et trouver du travail. Mais aussi, concernant l'opération Lone Star du gouverneur Greg Abbott dont on parlait au début, le gouverneur a décidé aussi de conduire par bus les migrants dans des villes sanctuaires. Donc des villes sanctuaires, ce sont souvent des villes plutôt démocrates qui accueillent les migrants sans papier, ce qui crée un phénomène de tension entre ces villes sanctuaires et les républicains, puisqu'il n'y a pas de coordination pour accueillir ces migrants. Donc les villes sanctuaires se trouvent complètement débordées, sans capacité d'accueil, et vraiment cette tension entre républicains et démocrates qui s'accentue.
Et alors, à contrario, ceux qui ne parviennent pas à franchir la frontière, ils restent au Mexique. Comment les choses se déroulent-elles, Cléa Fortuné?
Alors, la situation est extrêmement dangereuse pour eux, puisque le nord du Mexique est notamment contrôlé par des organisations criminelles, des cartels de drogue, pour qui les migrants sont des proies, et aussi une activité extrêmement lucrative. C'est une activité, le trafic de migrants est une activité qui devient de plus en plus lucrative, et même plus lucrative et rentable que le trafic de drogue pour les cartels. Donc la situation est très dangereuse pour les migrants à la frontière avec le Mexique.
Merci beaucoup Cléa Fortuné. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Quelques secondes, nous serons avec Alexandra Delbeau pour Avec Science, bien sûr. Et on va parler silhouette, mais alors silhouette de mégalodon.